D'abord, les deux lectures pour ce dimanche de Quasimodo, premier dimanche après Pâques. L'épître tiré de Saint Jean. Mes bien-aimés, quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais quel est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce même Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et avec le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et les sangs. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage que le Christ est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, ces trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont un. Et si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Or, ce témoignage de Dieu qui est plus grand, c'est celui qu'il a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu porte en soi le témoignage de Dieu. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. Dans ce temps-là, le soir du même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se plaçant au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc de voir le Seigneur, et il leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez ». Or Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains le trou des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». 8 jours après, les disciples étaient enfermés de nouveau et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Se plaçant au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Il dit ensuite à Thomas, introduisez votre doigt ici, voyez mes mains approchées. Aussi votre main, mettez-la dans mon côté, ne soyez pas incrédule, mais fidèle. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que vous m'avez vu, Thomas, vous avez cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus fit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont point écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Que le croyant, vous ayez la vie en son nom. Viens vous asseoir. Alors attention, la fête du mois de juin, du 7 au 12 juin, est pleine. Bon, j'ai encore des places pour les dernières retraites de l'année, du 13 septembre au 18 septembre et du 18 octobre au 23 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce dimanche a une importance particulière dans la liturgie. C'est pour ça que c'est un double de première classe. On appelle ce dimanche le dimanche in albis. Albis veut dire blanc en latin. Dimanche in albis, pourquoi? Parce que les catéchumènes qui se préparaient au baptême étaient baptisés la veille de Pâques, la vigile de la nuit de Pâques. Et c'était la tradition, au moins dans les temps de paix, pour les catéchumènes qui venaient d'être baptisés, donc les nouveaux baptisés, de mettre sur eux une eau blanche qu'ils allaient garder toute la semaine, pour manifester publiquement leur nouvelle appartenance à l'Église. Et le dimanche suivant, on appelait ça le dimanche in albis, parce que c'était le jour où ils déposaient l'eau blanche pour reprendre leurs vêtements civils. Il y a aussi une chose très importante dans l'évangile de ce jour selon saint Jean. Les apôtres ont été ordonnés prêtres le jeudi saint. Jeudi saint au soir, au cours de ce qu'on appelle la messe du semestre vespéral. Mais ils ont été ordonnés prêtres, mais ils n'avaient pas encore reçu le pouvoir de confesser. Ils avaient reçu le pouvoir de célébrer la Sainte Messe, mais pas encore de confesser. Et c'est le dimanche suivant, on voit aujourd'hui dans l'évangile du jour, que Dieu va leur rajouter ce deuxième pouvoir, le pouvoir d'entendre les confessions. Le pouvoir d'entendre les confessions. Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. Et ce point important, pour ceux qui ont déjà assisté à une ordination sacerdotale, il y a deux impositions des mains. au début de l'ordination sacerdotale, l'évêque va imposer les mains aux jeunes diacres. Ils vont devenir prêtres. Ils n'ont pas encore le pouvoir de confesser. Pour ça que leur chasuble, qui est placée sur leur épaule, est accrochée sur les épaules. Elle n'est pas encore déployée. Et à la fin de la messe, il y a une deuxième imposition des mains. Le jeune prêtre, qui est vraiment prêtre déjà, mais qui n'a pas encore le pouvoir de confession, revient devant l'évêque, qui réimpose les mains une deuxième fois et qui donne cette fois-ci le pouvoir de confesser. Et du coup, un servant de messe va venir déployer, enlever les épingles qui tiennent la chasuble, et la chasuble est déployée, il est vraiment prêtre. Alors, pour ce sermon, je voudrais insister sur un point qui me semble important pour toutes les évangiles, chacun des évangiles de cette semaine dernière, c'est que pour la semaine qui suit Pâques, l'octave de Pâques, il y a une messe différente pour chaque jour. Et on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ donc, va venir réconforter ses disciples, ses apôtres. Ils ont tous perdu la foi au moment de la Passion, scandalisés par la croix. Et notre Seigneur va venir les chercher, les rattraper, on peut dire les uns après les autres, pour leur redonner la foi. Il y a plusieurs choses qui me frappent. Première chose qui me frappe, évidemment, c'est le fait que les apôtres n'ont pas caché leur faiblesse. D'abord, ils ont été très faibles, tous. Même Saint-Pierre, même Sainte-Marie-Madeleine ont perdu la foi. Alors que notre Seigneur avait annoncé, je ne sais pas combien de fois, le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Et une deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est que cette faiblesse des apôtres, les apôtres n'ont pas du tout cherché à la cacher. Je ne sais pas si c'est ce que vous auriez fait, mais vous, mais moi, je crois que si j'avais été Saint-Pierre, j'aurais dit aux futurs évangélistes, écoutez, quand vous racontez un peu l'histoire de la Passion, est-ce que vous pourriez peut-être être un peu discret sur une histoire de coq qui chantait et d'une petite servante qui venait me voir en me demandant si je connaissais cet homme. Et moi, trois fois, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Est-ce que vous pourriez escamoter un peu les choses? Pas du tout. Saint Thomas a pu dire, bon, mon histoire, quand je suis venu trois fois, quand je suis venu et j'ai refusé de croire ce que me disaient mes confrères, et j'étais pas là le jour où il s'est apparu, moi j'avais tout envoyé promener, et puis j'ai exigé, j'ai posé des conditions au bon Dieu pour mettre mon doigt dans ses plaies, et sinon je croirais pas. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, un petit peu arranger les choses? Non. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a la faiblesse des apôtres, mais en même temps, une extraordinaire humilité. Donc on voit la faiblesse des apôtres, mais comme il y a l'humilité, la miséricorde de bon Dieu, ça s'adresse à eux. Et la miséricorde de Dieu, qui va venir justement les rattraper les uns après les autres, elle peut s'exercer, pourquoi? Parce que l'humilité est là. L'humilité, c'est la clé qui ouvre la porte de la miséricorde. Pas d'humilité, pas de miséricorde. La miséricorde est toujours là, mais elle ne peut pas s'exercer. Pourquoi? Quel est le grand obstacle au fait que la miséricorde de Dieu puisse s'exercer? C'est l'orgueil, évidemment. Et l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Et donc, on voit très bien, il y a la faiblesse des apôtres, mais l'humilité, donc Dieu donne son pardon en pratiquant, en exerçant sa miséricorde extraordinaire. Très important pour nous. Parce que nous, on a un peu tendance à imiter les apôtres dans nos faiblesses personnelles. Elles sont peut-être un peu différentes, mais on a tous nos faiblesses. Soit selon la concupiscence des yeux, soit la concupiscence de la chair, soit l'orgueil, chacun est différent. On a tous nos faiblesses. Et on voudrait tous pouvoir bien utiliser la miséricorde du bon Dieu, nous aussi. Mais n'oublions pas que pour pouvoir exercer la miséricorde du bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut? L'humilité. Et si vous et moi, nous n'avons pas cette humilité pour lutter contre notre orgueil, l'orgueil qui est dans notre cœur va empêcher littéralement la miséricorde du bon Dieu de s'exercer. Et c'est ça qui explique la catastrophe au niveau de la foi d'aujourd'hui. Parce que l'homme moderne veut s'élever au niveau de Dieu. Une espèce de panthéisme. La créature devient Dieu, se croit devenir Dieu. Et à cause de cet orgueil, la miséricorde du bon Dieu ne s'exerce plus. Non pas qu'elle ne veuille plus s'exercer, mais la porte des âmes, des hommes modernes, est complètement hermétiquement close à cause de l'orgueil. Et donc il faut l'humilité pour pouvoir réouvrir cette porte. Alors on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles les apôtres ont été tellement faibles pendant la Passion? Ils sont tous sauvés comme des lapins. Et si on analyse un peu les choses, on voit très bien que c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ, pendant sa passion, va cacher sa divinité. Il ne la détruit pas, il est toujours là, il est toujours Dieu, attention. Mais il est évident que quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ porter sa croix, quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ être crucifié au sommet du calvaire, quand on entend notre Seigneur Jésus-Christ dire cette phrase invraisemblable, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Elle est où la divinité de notre Seigneur? Et c'est ce qui s'est passé, notre Seigneur cache sa divinité, et donc on ne voit plus que l'humanité. Et parce que notre Seigneur cache sa divinité, cela va entraîner chez les apôtres une défaillance au niveau de la foi. Et donc, en conséquence, ils vont s'accrocher à l'humanité, ils vont voir plus que l'humanité. Ça va entraîner une défaillance au niveau de l'espérance. Parce que s'il n'y a plus que l'humilité, le ciel, il est où là-dedans? Vous voyez? Et donc, cette défaillance de la foi, défaillance de l'espérance, va entraîner évidemment une défaillance de la charité. Et donc, ils vont perdre littéralement l'état de grâce en trahissant notre Seigneur et en l'abandonnant tous. Vous voyez? Je pense que c'est aussi notre histoire à nous. Parce que les apôtres ne voyaient pas la divinité de notre Seigneur. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu. C'est un des plus grands mystères de la foi catholique. Comment est-il possible pour notre Seigneur qui est crucifié, qui souffre le martyre sur une croix, d'avoir toujours la vision béatifique? Sinon, il est Dieu. Eh bien, il a voulu, disent les pères, il a voulu en quelque sorte cacher cette divinité et littéralement couper la gloire, si vous voulez, qui vient de son union à la divinité. Il est vraiment Dieu et vraiment homme. Et tout en restant vraiment Dieu et vraiment homme, il a voulu avoir la totalité des souffrances possibles dans son humanité souffrante. Un grand mystère. Donc il faut vraiment méditer là-dessus et se rappeler que si les apôtres, ils voyaient au moins l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous, on voit ni la divinité, ni l'humanité de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite hostie. Donc il faut exercer notre foi encore plus que les apôtres. Les apôtres, au moins, ils voient l'humanité. Nous, on voit ni la divinité, ni l'humanité de notre Seigneur. Et donc c'est là où il faut vraiment prononcer cette parole dont je vais parler maintenant, qu'a dit Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et nous, utiliser justement cette vertu de charité, n'oubliez pas que la vertu de charité ne peut pas exister s'il n'y a pas la foi et l'espérance. La foi et l'espérance, ce sont les fondations même de la vertu de charité. La vertu de charité, c'est l'amour du bon Dieu qui nous permet de remplir ses commandements. Mais s'il n'y a pas la foi pour croire et l'espérance pour rien, comment voulez-vous que la charité puisse exister dans une âme? La charité disparaît immédiatement. La charité est encore plus fragile que la foi et l'espérance. La foi et l'espérance peuvent demeurer dans une âme même en état de péché mortel. Ça devient ce qu'on appelle une foi informe, une charité, une espérance informe. Il n'y a plus de charité dans une âme en état de péché mortel. Et donc, il faut bien utiliser justement ce temps de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Pour arriver à nous accrocher. Parce que c'est la grande tentation pour chacun d'entre nous aujourd'hui, moi le premier d'ailleurs, de se dire, mais on voit ni l'homme, ni le Dieu, ni l'humanité, ni la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? On a l'impression, c'est vrai qu'humainement parlant, le bon Dieu nous laisse notre triste sort. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu, attention. Il est toujours le maître, toujours le grand patron. Même si il se tait. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est tu pendant la passion. Jésus autem tacebat. Jésus se taisait. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait un grand miracle devant Pilate, devant Caïphe et devant tous les Juifs? Il serait bien arrangé ses affaires quand même. Pourquoi, à un moment, lorsque Judas, son apôtre, est venu le trahir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé au Père d'envoyer une demi-légion d'anges et ouvrir la terre sous le pied de tous ces gens qui venaient l'arrêter? Ils seraient tous tombés en enfer, c'était réglé. Pourquoi? C'est ça le mystère de la passion. Eh bien, puisque nous sommes fils de notre Seigneur Jésus-Christ par adoption, par le baptême, nous devons participer justement à cette incompréhension de la passion. La passion se continue ici-bas sur la terre. Alors, voyons rapidement un petit peu, j'ai pas le temps d'expliquer tous les évangiles de cette semaine dernière, mais d'abord prenons l'évangile d'aujourd'hui, Saint Thomas. Saint Thomas, apôtre qui abandonne notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est même pas là au moment où notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître aux autres apôtres, et qui pose des conditions au bon Dieu. Des conditions au bon Dieu. J'exige de pouvoir mettre mon doigt, dans ses plaies, les plaies des mains, des pieds, du côté. Je vous déconseille fortement de poser ce genre de conditions, bon Dieu. Ça a marché avec certains, et ça risque de pas trop marcher avec nous. Nous, on n'a pas le droit de poser les conditions, bon Dieu. Et strictement parlant, le péché de Thomas, là, c'est un péché de présomption. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur? Il lui apparaît, il oblige à mettre son doigt dans les plaies des mains, des pieds, du côté. Et saint Thomas a cette phrase magnifique, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Une belle phrase que vous pouvez utiliser pour votre action de grâce après la communion. Ça veut dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur, c'est l'humanité, mon Dieu, c'est la divinité. Donc saint Thomas a perdu la foi, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par cette phrase « Mon Seigneur et mon Dieu », il recolle un peu les deux choses ensemble. Il recolle dans la même personne l'humanité et la divinité. Il retrouve la foi. Il retrouve la foi. Et c'est ce que nous devons aussi faire quand on est tenté d'oublier un peu que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi Dieu, redire cette phrase « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et dans les pays de langue hispanique, c'est la coutume pendant la consécration. Pendant la consécration, tous les fidèles disent à haute voix « Seigneur mios et Dios mios, mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'est pas la coutume en France, mais c'est une belle coutume dans les pays, les pays hispaniques. Deuxième exemple sur lequel on peut méditer, c'est l'exemple de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, elle aussi, Dieu sait s'il avait aimé notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît, elle vient au tombeau, elle cherche notre Seigneur Jésus-Christ, que sainte femme, les autres femmes partent, sainte Marie Cléophas, Marie Salomé, elle reste à pleurer au tombeau, notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît, elle ne le reconnaît pas, elle pense qu'il est jardinier. Et notre Seigneur Jésus-Christ va se dévoiler, se révéler à elle. Il a pitié d'elle, lui donne la grâce de la foi. Elle aussi a perdu la foi. Maria, il l'appelle par son prénom. Alors elle le reconnaît, elle tombe à genoux, elle veut toucher notre Seigneur. Intéressant de voir. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ s'était laissé toucher par saint Thomas et pas par sainte Marie-Madeleine? Pourquoi? Intéressant de voir ça. Votre réponse, c'est que saint Thomas avait littéralement complètement perdu la foi. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ l'a laissé le toucher pour augmenter cette foi qui avait complètement disparu. Alors que chez sainte Marie-Madeleine, les dégâts dans son âme étaient moins grands. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'amour de sainte Marie-Madeleine. Rappelez-vous cette phrase extraordinaire, elle lui sera beaucoup pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Et donc, elle pouvait retrouver la foi immédiatement sans même toucher notre Seigneur Jésus-Christ. En plus de ça, elle voulait, contrairement à saint Thomas qui avait simplement besoin de retrouver la foi, sainte Marie-Madeleine était tombée dans une autre erreur qui consistait à essayer de pouvoir posséder notre Seigneur Jésus-Christ complètement dès ici-bas. Et ça, c'est pas possible parce qu'il faut être au ciel pour posséder notre Seigneur. Pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ lui dit « Ne me touche pas. » Alors, puisque nous aussi, nous avons beaucoup péché dans le passé, il nous faut appliquer cette belle formule que notre Seigneur Jésus-Christ a appliquée à sainte Marie-Madeleine. Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse dire aussi pour chacun d'entre nous, moi le premier, certes, il a beaucoup péché, mais il a beaucoup aimé. Et parce qu'il a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Notre Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas les péchés du passé. Une fois qu'il les pardonne, il les oublie. Mais il demande une réparation par l'amour. Ça arrive souvent, des gens qui me demandent, mais monsieur l'abbé, j'ai beaucoup offensé Dieu dans le passé, je regrette bien tout ce que j'ai fait une bonne confession, comment est-ce que je peux rattraper les dégâts maintenant? Par l'amour. Rattraper par votre degré d'amour du bon Dieu, notre degré de charité doit être proportionné au nombre des péchés qu'on a commis dans le passé. Un autre exemple, je n'ai pas le temps de tous les prendre, mais un autre exemple qui est très beau, c'est l'exemple des disciples d'Emmaüs. Encore des évangiles qu'on a dans cette semaine dernière. Des disciples d'Emmaüs, Cléophas était le père de Saint Joseph. Cléophas et Saint Luc, vraisemblablement, on n'est pas très sûr de la deuxième personne qui était en train de cheminer sur le chemin d'Emmaüs, parce que le nom n'est pas donné dans l'Écriture sainte. Les pères pensent que c'est Saint Luc, qui n'était pas un apôtre, mais un évangéliste, un disciple de notre Seigneur. Ils sont complètement découragés, Le moral à zéro, moral dans les chaussettes, comme on dit vulgairement, c'est fini, c'est terminé. On croyait qu'il allait rétablir le royaume d'Israël, tout est fini, il a été crucifié par les politiciens, c'est fini, c'est terminé. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'approche, ils ne le reconnaissent pas encore une fois. Et notre Seigneur Jésus-Christ leur fait ce reproche. Vous au cœur tiède. Certaines traductions disent vous au cœur froid. Ça, c'est pour nous, ça. Nous aussi, on a le cœur tiède. Nous aussi, on a le cœur froid, qu'on appelle la sédie, la paresse spirituelle. Paresse spirituelle, on est très, 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 très énergique pour toutes les choses matérielles, mais alors, dès qu'il s'agit des choses spirituelles, on a une espèce de faiblesse invraisemblable. Et le point important dans cette apparition, donc notre Seigneur Jésus-Christ leur redonne un court catéchisme pour leur expliquer pourquoi il était nécessaire qu'il passât par sa passion. Alors, il fait mine de s'éloigner, prendre un autre chemin, non, non, restez avec nous. Et là, il y a un point très important. Ils rentrent tous les trois, notre Seigneur et les deux disciples, Cléophas, Saint-Cléophas et Saint-Luc, dans l'auberge. Et là, nous dit l'Écriture sainte, il a prononcé les débuts de la Sainte Messe, les paroles de la Sainte Eucharistie déjà. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Et c'est, je pense, quelque chose de très important pour nous à comprendre. Lorsque nous sommes découragés, lorsque notre foi devient de plus en plus faible, qu'est-ce qu'il faut utiliser? La Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie est un renforcement extraordinaire de notre foi. Justement, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes en désolation, lorsque tout va mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser la Sainte Eucharistie. Bien sûr, quand nous sommes en état de grâce. Mais lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes avec des péchés, des tentations très fortes contre l'espérance, c'est la Sainte Eucharistie justement qui nous donne cette grâce extraordinaire de retrouver la foi et retrouver cet amour du bon Dieu. Et dernier exemple que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est l'exemple de la pêche miraculeuse. Notre Seigneur Jésus-Christ a passé 40 jours avec ses apôtres depuis le dimanche de la résurrection jusqu'au jeudi de l'ascension, mais il n'est pas tout le temps avec eux. Les apôtres vont pêcher, avoir quelque chose à manger, ils passent la nuit sur le lac de Génézareth à pêcher et puis ils prennent rien. Ils prennent rien. Notre Seigneur Jésus-Christ apparaît sur le rivage, ils ne le reconnaissent pas, encore une fois, manque de foi, alors qu'ils l'ont déjà vu. Il sait qu'il est ressuscité d'entre les morts, mais ils croient toujours pas vraiment, leur foi est encore faible. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce conseil, jetez donc le filet sur le côté. Et là, on voit qu'ils acceptent ce conseil d'une personne inconnue qu'ils ne reconnaissent pas, ils jettent le filet. Et l'Évangile nous dit qu'ils ont pris 153 gros poissons. 153 gros poissons. Et voyons là, nous voyons encore la miséricorde extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, il réalise, c'est Saint Jean qui réalise le premier, que cette personne sur le rivage qu'on voit mal à cause du brouillard, c'est notre Seigneur. Alors il ramène les poissons, et que fait notre Seigneur? C'est là encore une fois où on voit la miséricorde. La miséricorde extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ sait qu'ils ont passé toute la nuit sans rien prendre, ils sont fatigués. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un feu, il a préparé le petit déjeuner. Préparé le petit déjeuner, du poisson grillé, du pain grillé, des rayons de miel. Et ça nous dit quoi? C'est encore un exemple pour nous. On pourrait croire que notre Seigneur Jésus-Christ va leur reprocher leur manque de foi. Non, il leur donne le petit déjeuner parce qu'il sait qu'ils en ont besoin. La même chose pour nous. Nous aussi, on se demande souvent, on se pose souvent la question, comment je vais faire pour payer les factures de fin de mois? Comment je vais faire pour arriver à régler toutes mes dépenses? J'ai pas assez d'argent qui rentre. Notre Seigneur s'occupe aussi des choses matérielles. Comme il s'est occupé du petit déjeuner des apôtres, s'il s'est occupé du petit déjeuner des apôtres, il peut s'occuper d'une autre. Ça aussi, c'est important à comprendre. Et notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit bien là dans les évangiles, notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe aussi des choses matérielles. Parce qu'il sait qu'on en a besoin. Il ne va pas nous donner des choses extraordinaires parce qu'il sait aussi que l'amour de l'argent, c'est le meilleur moyen de tout détruire, de tout faire disparaître. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ et à celle qui a participé de façon extraordinaire à la passion de notre Seigneur, celle qui est co-rédemptrice du genre humain, même si M. Bergoglio le nie aujourd'hui, celle qui est co-rédemptrice du genre humain, demandons-lui justement de nous aider à participer aux conséquences de ce mystère de la rédemption. Nous aussi d'accepter d'être au pied de la croix pour pouvoir, ceux qui ont participé au mystère de la rédemption, les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ participeront à sa résurrection. Et si je refuse la croix, je refuse la résurrection. Donc je refuse de monter au ciel. N'oublions pas qu'il y a un lien entre ces trois choses. Il y a un lien entre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, vendredi saint, l'ascension au ciel 40 jours après Pâques et la fête de la Pentecôte, 10 jours plus tard, 50 jours après la résurrection. Et si je refuse la première étape, je ne peux pas passer à la deuxième étape et à la troisième étape. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider vraiment à ne pas nous décourager. Malgré les moments difficiles, malgré les moments de désolation, malgré les moments de trouble profond. Si les apôtres ont été troublés dans leur foi, ne soyez pas étonnés, mes bien chers frères, si vous et moi on est aussi troublés. Nous aussi on a des moments difficiles. Des moments où on a l'impression d'avoir été abandonné par notre Seigneur. Mais on a toujours deux personnes à côté de nous, hein. Notre Seigneur et la Sainte Vierge. Donc il faut passer par elle justement pour ne jamais nous décourager et nous maintenir toujours sur cette route qui mène au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.